Allez, France Bleu Soir, c'est parti. Ravi de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 20h et d'habitude, on fait tout pour vous changer les idées, chasser vos soucis, vos idées noires. Et bien, c'est tout le contraire qui est prévu ce soir avec la nouvelle édition de la nuit de la déprime.
Bah oui, parce que c'est
imaginée et organisée par notre invité Raphaël Mesrahi que vous entendrez après les titres du journal, présenté par la souriante Frédéric Dorel.
Bonsoir Arnold, bonsoir à tous.
La gare Montparnasse à Paris, à nouveau paralysée aujourd'hui.
Oui, par un problème électrique, le trafic a repris, mais avec des retards qui peuvent aller jusqu'à 4 heures. Le verdict est tombé pour les deux policiers accusés de viol au 36 quai des Orfèvres. 7 ans de prison, les jurés ont suivi l'avocat général. Attention à l'envolée des prix demain sur des milliers de produits dans les grandes surfaces. Les consommateurs que vous entendrez sont prévenus, mais pas convaincus de faire un geste pour les agriculteurs.
Les retraités qui manifestaient aujourd'hui demandent l'indexation des pensions sur les salaires.
Ils ont été reçus par le secrétaire d'État Olivier Dussopt. Nous serons en direct avec Olivier Jouchter, membre de la délégation pour la CGT. Les surveillants de prison aussi se rappellent aux bons souvenirs du gouvernement. Un mouvement commence à Fleury-Mérogis ce soir. Les députés, eux, discutent de la loi anti-casseurs à l'Assemblée. Et certains s'inquiètent pour la liberté de manifester. Est-elle menacée? C'est ce que nous demanderons à Nicolas Balu. Et puis votre invité, un triste sire ce soir, Raphaël Mesrahi ce soir.
Oui, que l'on priera de chasser ce vilain sourire de son visage. Bonsoir Raphaël Mesrahi.
Bonsoir, merci de m'accueillir, c'est cool.
Avec plaisir, la nuit de la déprime, pensais qu'on n'allait pas louper ça.
Oui.
C'est en programme de France Bleu Soir jusqu'à 20h, restez avec nous, voici le journal.
France Bleu Soir. France Bleu Soir. Arnold Derek, Frédéric Dorel.
À 19h, presque 2 minutes, on parle de ce gros bug, à nouveau à la gare Montparnasse à Paris.
Ouais, c'est le quatrième en 18 mois. Les TGV entre la capitale et le sud-ouest sont encore déroutés vers Austerlitz ce soir.
Oui, tout ça à cause d'un problème électrique au départ et à l'arrivée.
Les voyageurs sont priés de reporter leur trajet à demain. Les autres, en revanche, doivent prendre leur mal en patience, Émilie Defay.
Et de la patience, il en a fallu beaucoup aujourd'hui à Angélique, qui devait faire l'aller-retour entre Le Mans et Paris.
Là, on a 2 heures de retard. Et ce matin, quand j'ai pris le train du Mans pour arriver à Montparnasse, on avait 2 heures de retard déjà ce matin. Je vois que ça ne s'est pas réglé dans la journée. Et puis, on va pas rentrer de bonne heure encore ce soir.
Certains voyageurs ont dû patienter plus de 4 heures dans le froid. C'est le cas de Julie en partance pour La Rochelle et qui, à 15h30, a dû se rendre en catastrophe à Austerlitz quand la SNCF a annoncé que tous les trains vers le sud-ouest partaient désormais de cette gare.
Moi, mon trajet, c'était 12h30. Donc j'ai attendu 3 heures. Et en fait, le prochain, c'était à 15h27. Ils nous ont prévenu qu'à 26 qu'il fallait aller à Austerlitz. Donc là, ça commence à faire un petit peu long. Puis surtout que le déplacement de la gare jusqu'à là n'est pas pris en charge. Il n'y a rien qui est pris en charge. C'est vraiment plein de galères avec des prix en plus.
Ce soir, la SNCF travaille toujours pour réparer la panne et a donc demandé à ceux qu'ils pouvaient de reporter leur voyage. C'est sans doute ce que va faire Didier, qui doit rentrer à Nantes.
Pour l'instant, c'est un peu dans le flou. Je pense qu'ils sont en train de faire le nécessaire pour réparer, mais une fois de plus, une panne. Bon. Puis je vais essayer de trouver une solution quand même pour rentrer. Peut-être que je vais passer la nuit à Paris. Je vais voir.
Au total, 20 000 voyageurs ont été impactés selon la SNCF.
Émilie Defay, France Bleu Paris. Évidemment, toutes les informations, tous les détails sur notre site internet francebleu.fr.
Il sera encore difficile de circuler ce soir et demain matin entre la Normandie et les Hauts-de-France.
À cause cette fois d'un nouvel épisode neigeux qui concerne aussi le département des Yvelines en région parisienne. Par ailleurs, les zones risquées en termes d'avalanche se trouvent désormais dans les Alpes.
Oui, et le risque est qualifiée de très fort par Météo France.
Quant à la Corse du Sud, elle est en alerte vague submersion.
Attention, demain, 1er février, faire ses courses nous coûtera plus cher.
Conséquence de la loi alimentation, pour mieux rémunérer les agriculteurs, les distributeurs, petits ou grands, ont l'obligation de se faire au moins 10% de marge sur les produits qu'ils vendent.
Ils ne pourront plus tenter de nous appâter sur le Coca ou le Nutella avec des prix défiant toute concurrence.
Résultat, des caddies plus chers en caisse. À Mayenne, près de Laval, Martin Cotta.
Il y a les très mécontents comme Marie-Hélène et Marie-Thérèse.
Nous, on est retraités, on nous ponctionne sans arrêt et puis on continue encore à nous ponctionner un peu plus. Est-ce que ça ira vraiment dans la poche des agriculteurs? Ça, je m'étonne.
Le caddie coûte de plus en plus cher parce que moi, combien de fois à la caisse, je me dis, mais c'est pas possible. On s'en aperçoit pas forcément quand on prend dans le rayon, mais quand on passe à la caisse, on s'en aperçoit.
Et il y a les clients pour qui les habitudes d'achat ne vont pas changer. Nicole et Michel ont un chariot bien rempli.
Bon, je priverai pas mes petits-enfants de leur Nutella. Puis j'aime pas les autres pâtes à tartiner.
J'aime beaucoup prendre des bonnes marques parce que les sous-marques, c'est pas toujours très très bon. Et acheter un petit peu plus cher, oui, à l'occasion.
Pour un camembert président, marque du géant mayennais Lactalis, comptait 6 centimes de plus, 1 centime sur le beurre doux président. La plus grosse augmentation va concerner certaines boissons alcoolisées, comme le pastis. À l'IPRU de Mayenne, Nicolas Mousset, son directeur, a pris des dispositions avec ses salariés.
On a informé nos équipes pour bien expliquer ce dont la loi aboutissait. Notre enseigne aussi organise des remises sur d'autres produits afin que justement le panier global de nos clients ne soit pas impacté.
Dans son magasin, 1000 produits environ vont augmenter.
Martin Cotta, France Bleu Mayenne.
Également demain, niveau côté augmentation, les tarifs des péages.
De presque 2% en moyenne pour compenser les sociétés d'autoroutes en mise en place des abonnements à moins 30% à partir de 10 allers-retours sur le même trajet.
Pour les retraites, en revanche, le gouvernement ne fera pas plus aujourd'hui, c'est sa réponse, après une sixième journée de manifestation.
Des retraités qui demandent à retrouver leur pouvoir d'achat d'il y a un an et demi, soit via la CSG, soit en indexant les pensions sur les salaires. Olivier Jouchter, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général adjoint à l'Union des retraités CGT. Alors le secrétaire d'État Olivier Dussopt qui vous a reçu s'appuie sur les 0,3% de revalorisation qui vous ont été octroyés en janvier et les 0,3% qui suivront en 2020 pour vous dire vous n'aurez pas plus.
Oui, écoutez, c'est étonnant, mais il a l'air de considérer que c'est suffisant et à la limite que c'est à peine justifié de manifester notre mécontentement. Vous avez rappelé effectivement que c'était la sixième journée d'action des retraités dans le pays depuis 2017. Le mécontentement des retraités est profondément ancré, c'était déjà vrai avec le précédent gouvernement. Ça s'est accru avec celui-ci du fait de la mesure de la CG qui a été la goutte qui fait déborder le vase.
Alors même
pour
si...
répondre plus précisément à votre question, le 2018, ça a été plus zéro, donc rien. Donc 0,3 en 2019 et 0,3 pour 2020, nous promettons, alors qu'on vérifie une hausse de l'inflation beaucoup plus élevée, autour d'un 7. On parle d'un 5, d'un 6 pour 2019. Et le décrochage du pouvoir d'achat des retraités par rapport à celui des salariés est extrêmement important. Et nous, nous faisons le constat d'une perte du pouvoir d'achat qui correspond dorénavant à plusieurs centaines d'euros par an pour les retraités. Alors c'est une moyenne, mais ça s'approche de la moitié d'une pension. Donc vous voyez que c'est tout à fait considérable et qu'il est urgent que le gouvernement nous entende. Mais force est de constater que M. Dussopt, s'il a été très poli, s'il a lui au moins pris le temps d'écouter, et ça faisait longtemps qu'on l'attendait, pour l'instant il n'y a pas l'ombre d'une mesure.
Mais le gouvernement continue de vous considérer comme des nantis. Et cela dit, vous n'êtes pas si nombreux que ça dans la rue. 17 millions de retraités et on compte quelques milliers de manifestants aujourd'hui.
Oh, écoutez, on peut toujours considérer les chiffres. Vous avez raison. Moi, à cette heure-ci, le recensement n'est pas complet, mais je veux tout de même dire à vos auditeurs qu'il y a eu plus de 126 rassemblements, manifestations dans le pays. Vous avez vu comme moi que les conditions climatiques n'étaient pas les meilleures, mais des chiffres que j'ai, moi j'ai évidemment participé à la manifestation parisienne, où nous étions 8000. On me parle de 4000 à Bordeaux, de 2000 à Marseille. Quand on aura fini l'addition finale, je pense que la mobilisation des retraités sera supérieure, y compris à d'autres mobilisations qu'on a observées dans cette période. Donc, n'opposons rien à rien, et je vous promets bien, et vous aurez l'occasion de vérifier, que les retraités étaient aujourd'hui fortement mobilisés.
Oui, et puis c'est vrai qu'on peut comprendre qu'avec un montant de moyen des pensions à 1400 euros et 1000 euros pour les femmes, vous ayez des raisons de manifester. Merci Olivier Jouchter, secrétaire général adjoint à l'Union des retraités CGT. Bonne soirée à vous.
Merci, bonne soirée à vous.
Après les fabricants de couches-culottes, les fast-foods sont convoqués par le gouvernement.
Pour qu'ils se mettent en conformité sur le tri des déchets cette fois, les McDo, Burger King, Starbucks ou KFC ont 2 mois désormais pour transmettre leur stratégie au ministère de la Transition écologique.
La suite du journal de Frédéric Dorel, il est 19h09, on parlera de la loi anti-casseurs en débat à l'Assemblée. Elle inquiète certains députés, est-elle une menace pour la liberté de manifester? C'est ce que nous verrons avec Nicolas Balzac. plus-values. Mmh. Un nouveau mouvement n'est pas à exclure chez les surveillants de prison. Mais d'abord, Frédéric Dorel, 7 ans de prison, c'est le verdict prononcé en cour d'assises à l'encontre des deux policiers du 36 quai des Orfèvres accusés de viol.
Et 7 ans de prison, c'était exactement ce qu'avait requis l'avocat général hier. David Di Giacomo, vous avez vu réagir les deux accusés de façon très différente tout à l'heure.
À l'énoncé du verdict, l'un des deux policiers s'est effondré. Il tenait la main de son avocate. Hein. Il était en sanglots. Le second accusé, lui, restait de marbre hein, face à cette condamnation. Le président a pris le temps de motiver cette décision. Les jurés ont délibéré pendant 8 heures, toute la journée, avant de les déclarer coupables. Et le président a rappelé que pour lui, les policiers avaient livré des déclarations fantaisistes tout au long de l'affaire et pendant les 2 semaines et demie de procès face à une victime qui, elle, de son côté, avait fait des déclarations constantes, a accusé constamment ces deux policiers de l'avoir violée. C'était deux versions irréconciliables hein, depuis 2 semaines et demie. La cour d'assises a décidé de condamner ces deux policiers de la BRI, vous le disiez, à 7 ans d'emprisonnement. Donc ils vont aller en prison dans les prochaines minutes. On a déjà entendu l'avocate de l'un des deux qui lui disait je te sors, je te sors. Donc on imagine qu'ils vont faire appel, mais les avocats ne se sont pas encore adressés à la presse.
Merci David Di Giacomo pour France Bleu.
Finalement c'est décidé, la France rapatriera ses ressortissants djihadistes.
Ils seraient de l'ordre de 130, une cinquantaine d'hommes et de femmes et 80 enfants, tous détenus dans des camps dans des conditions très difficiles.
Interdiction de manifester avec un masque ou un foulard sur le visage, la loi anti-casseurs est en discussion à l'Assemblée.
Alors c'est une loi qui inquiète certains députés au-delà même de la gauche parce qu'elle rend les fouilles possibles avant les manifestations et qu'un préfet pourra interdire un rassemblement. Tout cela sera encadré. Mais quand même, on vous pose la question, Nicolas Ballu, est-ce que c'est une loi qui peut aller à l'encontre de la liberté de manifester ?
Bien sûr, c'est prévu. Alors on ne parle pas là de la possibilité d'interdire une manifestation, ça existe déjà. On parle de l'interdiction individuelle, qui est l'article 2 de cette loi. Le préfet, c'est-à-dire l'État, peut vous empêcher de participer à une manifestation. C'est Vichy, clame le pourtant très modéré député Charles de Courson. C'est une pure folie, que se passera-t-il si un parti extrémiste arrive au pouvoir, s'exclame le parlementaire UDI. Car aucune autorisation judiciaire n'est nécessaire, il n'y a pas besoin de condamnation préalable, simplement une présomption. Ça veut dire que l'État a les mains libres, confusion des pouvoirs, assure une quinzaine de députés, La République En Marche. Alors le texte de loi est fait pour parer à l'urgence, c'est vrai. S'il faut passer par une procédure judiciaire, cela peut prendre 2 ou 3 ans, dit le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Allez expliquer cela aux commerçants de Bordeaux ou de Toulouse, que les casseurs sont identifiés et qu'ils peuvent revenir manifester. L'usage de cet article est encadré, mais l'histoire récente montre que les démocraties meurent de l'intérieur, pas avec un coup d'État.
Merci Nicolas Ballu.
Des précautions justement contre les casseurs, la ville de Valence en prévoit un certain nombre samedi.
Il n'y aura pas de transport en commun en centre-ville. Une grande partie des commerces seront fermés, les marchés annulés et ne seront autorisés à accéder au centre que les riverains et ceux qui viendront travailler.
Et puis un nouveau mouvement chez les gardiens de prison n'est pas à exclure.
La maison d'arrêt de Fleury-Mérogis est bloquée ce soir. Demain, Fresnes pourrait prendre la suite. Un an après le mouvement qui avait conduit la ministre de la Justice à promettre des recrutements, les surveillants alertent sur le manque de candidats. Thibaut Capel, par exemple, le dit, il est secrétaire force ouvrière à Fleury-Mérogis.
Aujourd'hui, quand vous regardez les concours pénitentiaires, vous avez à peine 20% des inscrits qui se présentent au concours. Donc là, franchement, on a un gros problème d'attractivité. Elle aura beau avancer ce qu'elle veut, le malaise, il est là, personne ne veut venir. Et les collègues aujourd'hui qui sont sur les coursives n'ont qu'une seule envie, c'est de partir. Si la ministre aujourd'hui ne veut pas se retrouver dans la même galère qu'elle s'est retrouvée confrontée au mois de janvier dernier, il va peut-être falloir aujourd'hui qu'elle ouvre la porte aux négociations, qu'elle arrête de nous envoyer des fins de non-recevoir. Et si elle veut sauver la profession, il va peut-être falloir revoir les salaires. Oui.
Thibaut Capel, secrétaire local force ouvrière à Fleury-Mérogis.
L'affaire avait défrayé la chronique il y a 6 ans. Le mur des cons débouche sur une seule condamnation.
Pour injure publique, l'ancienne présidente du très sérieux syndicat de la magistrature est jugée coupable de s'être moquée du père d'une victime. En revanche, pas de sanction pour avoir égratigné des hommes politiques.
Allez, de la musique pour clore votre journal. Mmh. Frédéric Dorel, Laurent Voulzy continuera de chanter dans les églises cette année.
Oui, alors c'est une tournée que l'on peut qualifier d'originale et que le chanteur poursuit donc cette année encore avec une 20aine de dates un peu partout en France. Et tant qu'à être dans une église, eh bien Laurent Voulzy se fait accompagner à l'orgue.
Toute seule, tout le temps. C'est l'eau qui vous sépare.
beau quand vous mimez l'orgue, Frédéric Dorel.
C'est ça. Bon, allez, belle
les gens vous applaudissent.
Enregistré à l'église Saint-Eustache à Paris, c'était en 2002.
Merci beaucoup, Frédéric Dorel, c'était magnifique. Vraiment, une prestance manuelle qui doit être soulignée, bien évidemment. Merci beaucoup.
Merci, Arnold.
Allez, la question qui fâche à Raphaël Mézraï. L'orgue est-il, bonsoir Raphaël, l'orgue est-il un instrument déprimant?
Ça dépend quel orgue. Vous avez l'orgue Hammond, l'orgue d'église.
Non, celui qu'on entend, l'orgue d'église.
L'orgue d'église, tout peut être déprimant, ça dépend de la manière
dont on en joue.
On en joue, oui.
Est-ce qu'on joue également?
Est-ce qu'on joue aussi? Oui, bien sûr, si en mineur, etc. Après, on peut rentrer dans les détails. Mais Voulzy, c'est formidable. Ouais. J'adore Voulzy. J'avais vu Aramatuel, j'étais au premier rang, et il avait un prompteur, et moi, je lui soufflais, parce que je connaissais. Me regardait, donc il me dit, mon prompteur.
Heureusement que vous étiez là, évidemment.
Non, pas du tout, mais bon.
Raphaël Mézraï est donc notre invité. On le retrouve juste après ce point météo.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.